Bon, bonjour. Alors, je m'appelle Jean-Bernard Gillot, je suis le gérant de la librairie Alain Brieux. La librairie Alain Brieux a été construite en 1958, mais originairement, c'était une librairie de 1883 à 1958, spécialisée en... spécialisée en autographe. C'était tenu par M. Désiré Janvier, suivi de Désiré Janvier fils, j'adore cette expression. Voilà, donc je ne peux pas empêcher de la sortir. Et en 58, Alain Brieux donc, devient spécialiste en sciences et médecine, et en instruments, surtout en instruments scientifiques. Voilà, donc on crée un peu un cabinet de curiosité qui est un petit peu unique dans le monde. Il n'y a personne qui fait cabinet de curiosité et librairie en même temps. Voilà. Donc, Alain Brieux reprend en 1958, décède en 2005, sa veuve reprend et en 1985, et sa veuve reprend jusqu'en 2005, date à laquelle j'achète la librairie, avec l'idée de continuer et de me glisser tout à fait dans ce qui avait été fait, d'où le nom gardé d'Alain Brieux, qui avait quand même une culture et une formation assez extraordinaire. Voilà. Ça, c'est la première chose. Depuis, on essaie de faire la même chose, d'avoir des instruments. Malheureusement, on ne trouve plus les mêmes instruments qu'on a pu trouver il y a 30, 40, 50 ans, mais ça reste une librairie magique avec des tas de petites aventures qui m'arrivent régulièrement. Voilà, ça, c'est la première chose.
Par le biais des instruments scientifiques, la librairie est, en quelque sorte, naturellement devenue... aussi un cabinet de curiosité.
Bon, alors le cabinet de curiosité, c'est quand même un lieu où au départ, on a déjà quelque chose qui est très important là au plafond, c'est qu'on a un crocodile. Le crocodile, l'emblème des cabinets de curiosité. Et voilà, ça c'est la première chose. Qu'est-ce que c'est qu'un cabinet de curiosité? C'est un espèce d'un... On ramasse tout ce qui peut avoir un intérêt, c'est-à-dire que j'ai aussi bien des météorites, je vais avoir des choses comme ça. Tout ça, donc j'ai une météorite que je vais aller chercher, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est pas forcément des objets que j'ai à vendre, mais la curiosité, c'est juste la curiosité, on a envie de connaître, s'intéresser à tout et de tout faire, quoi. Voilà. Les livres, c'est une chose, mais je crois que je m'ennuierais beaucoup avec uniquement les livres, et je m'ennuierais beaucoup avec des instruments, donc le fait d'avoir quelque chose qui est totalement évolutif, et surtout c'est qu'on n'arrête pas de découvrir des choses, on ne sait pas vers quoi on va. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Et voilà, là par exemple, depuis quelques temps, j'ai décidé de m'intéresser aux ouralines, on en reparlera tout à l'heure, l'ouraline étant un verre coloré qui est coloré avec de l'uranium, puisqu'on a donc décidé de faire, on démarre une exposition sur l'uranium, donc aussi bien avec des objets, des livres autour de Marie Curie, et puis des objets, avec même, on a même des bijoux qui sont faits à base d'ouraline avec du matériel, voilà. Donc ça, c'est des choses. Donc on est sans arrêt en évolution, en avancement. Pour moi, c'est ça un cabinet de curiosité.
Voilà. C'est juste.
Il n'y a pas de définition.
Il n'y a pas de définition.
On y court. Voilà.
Mais c'est vrai que c'était, je pense, à la fois pour le collectionneur curieux, cette réunion d'objets disparates, mais aussi pour le pour épater un petit peu ses visiteurs.
Et en fait, moi, le but, c'est effectivement de... Moi, j'ai une vitrine où les gens vont s'arrêter, les curieux. Alors, oui. C'est vrai que de nos jours, le cabinet de curiosité, c'est les gens font une photo de la vitrine et ça leur suffit pour la plupart. Les gens n'ont plus forcément envie d'avoir, mais c'est dans le carnet de photos. Donc, voilà, regarde, j'ai vu ça, je connais ça, c'est ça. Mais à côté de ça, il y a encore des clients, et puis ce qu'il faut, c'est montrer un intérêt. D'ailleurs, viens, je vais te montrer quelque chose, donc tu vas nous suivre, et puis on en parle.
Voilà.
Donc on va aller voir, justement, parce qu'il faut que je te montre tout ça. Donc on est en train de travailler avec le nouveau sujet de la librairie.
Oui.
Une exposition sur l'uranium. Oui. Et comme tu es une fille, je vais te montrer. Voilà, donc voilà, ça va être notre prochaine exposition.
Alors, explique-moi ce que sont tous ces bijoux.
Alors, les bijoux, tout ça est à base d'ouraline. L'ouraline,
oui.
C'est un minerai d'uranium,
mm-hmm.
qui a été découvert dans le Morvan, par M. de Champeaux vers 1830-1840, on ne savait pas très bien quoi faire avec. Et dans un premier temps, on a coloré des verres. Donc ça a fini par que le patron de chez Schneider a récupéré les droits. Il a vendu les droits à Baccarat. Oui. Et il y a eu des verres qui sont devenus des verres colorés, voilà, qui marchent à la lumière noire. Voilà. D'accord ? Donc on a fait ça. Et il y a même jusqu'à. J'ai découvert il y a très peu de temps qu'il y avait même des bijoux qui étaient faits comme ça.
Mais pour que les couleurs ressortent, il faut qu'elles soient à la lumière noire, qu'elles soient tirées à la. Que donnent les bijoux quand il n'y a pas de lumière noire ? Ça ne donne rien,
sauf que c'est très joli parce que dans une soirée. Après, l'idée, c'est de dire que c'est quelque chose d'un peu sulfureux, quoi. Donc on va faire notre expo autour de ça, de la vaisselle. Des choses qui ont été interdites après 45, parce que jusqu'en 45, on faisait ça avec grand plaisir.
Ah, alors, question, redonne-moi le nom de ce minerai. Est-ce que l'uraline est radioactive? Donc on peut le porter, on pouvait le porter, on pouvait boire et manger.
Voilà. En 1945, on a d'un seul coup eu très peur.
Oui.
Tout supprimé. Mmh. Mais ça se fait encore dans des pays de l'Est, ça se faisait en verre soufflé, mais on a arrêté de faire du verre soufflé. Donc ça, par exemple, c'est devenu très très rare. On ne les trouvera plus parce que c'est fini. Mmh.
Bravo.
Voilà, donc ça, c'est donc le prochain sujet de la librairie. Voilà. C'était ça. Donc, merci, madame.
Il n'y a pas de quoi, monsieur. J'ai vu de jolies choses que je ne connaissais pas.
Voilà. Voilà, c'est ça, la curiosité.
Oui.
Le cabinet de curiosité, c'est ça, c'est de... Oh, c'est de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, quoi. Parce que... On va se mettre là. Donc ça c'est de l'eau fine. Bon là il y a une légère radioactivité.
D'accord. Oui.
Mais c'est radioactivité naturelle, il n'y a pas non plus de quoi frotter un chat. J'ai encore la main intacte, hein, tout va bien. Voilà. Bien ça. La plus bonne. Ah, ça rentre. Voilà. Donc ça fait découvrir près de 500 francs de Marmagne. Et l'autre jour, il y avait un article dans le journal, le maire de 500 francs de Marmagne disait, heureusement, il n'y a plus de totunite là-bas, on est rassuré. C'est juste que c'est. Il y en a encore autant, mais c'est juste que c'est difficile d'accès et qu'on est de toute façon sur un terrain. Il y a de l'uranium partout dans le Morvan, donc il y a de la radioactivité, mais c'est tellement latent. Et voilà.
Bien, merci, monsieur.
J'ai encore les mains intactes. Voilà. C'est un peu... Donc on va mettre tout ça, tu vois. Donc on va faire ça la nuit.
Et tu vas faire une. Donc tu vas faire une exposition.
On va faire une exposition.
Et tu vas faire un vernissage de nuit, bien sûr.
De nuit.
Ouais. La description que vous avez donnée, ça pourrait. Le cabinet de curiosité, ça pourrait être une sorte de Capharnaüm, de bazar. Hein. C'est le désordre. Hein. Alors, il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans, peut-être. Et puis surtout, ce que vous venez de dire me fait penser à cette remarque que je trouve très pertinente. Quand on va dans une bibliothèque, on sait ce qu'on veut trouver, alors que quand on fouine pour récolter les objets, c'est tout le contraire, on n'a pas la moindre idée de ce qu'on cherche. Hein, et c'est la trouvaille.
C'est très très juste, je trouve, c'est vraiment parfait. J'ai exactement le... Si je reprends l'exemple de l'uraline au départ, moi, je sais que parce que je suis originaire d'Autun et qu'il y a du minerai d'uranium du côté d'Autun, les Curie trouvent a priori le premier minerai d'uranium par là-bas. Et donc après, j'apprends qu'il y a des choses et du coup, je décide de faire une exposition, de totalement inventer une histoire. Personne n'a jamais fait ça, mais c'est juste que je suis comme c'est en perpétuel mouvement, donc on est tout le temps en train de chercher des choses, on ne sait pas vers quoi on va. Et effectivement, moi, je ne vais pas en bibliothèque, ce qui m'amuse, c'est de fouiller, je ne sais pas vers quoi. Là, en l'occurrence, l'eau tunite m'a amené, le Morvan m'a amené à une histoire qui va peut-être prendre, qui ne prendra pas, mais ce n'est pas grave. On va faire une jolie vitrine avec des choses qui vont être fluo, qui vont marcher la nuit. Voilà. Mais juste, voilà, c'est comme ça que, bon, par exemple, parce que je pense, parce qu'il y a Nicolas Landau, ça c'est un personnage extrêmement important, on y reviendra après. C'était quelqu'un qui a énormément travaillé sur les cabinets de curiosité, sur les instruments. Et il y a même un petit livre qui a été fait par Alain Brieux, ça s'appelle Les Aphorismes. On regardera tout à l'heure des petites. Il avait des petites. L'objet c'est inconnu, il avait. Bref, enfin, on fera ça tout à l'heure. Sachez, n'achetez jamais un original dont la copie se trouve au Louvre. À l'hôtel, vous n'achetez pas un objet, vous achetez un objet contre quelqu'un. Voilà, etc. Donc Nicolas Landau, c'était quelqu'un qui avait une culture incroyable. J'ai un souvenir d'un ami qui m'a raconté qu'à la fin de sa vie, il ne voyait plus très clair et il prenait un objet et il le regardait très très près. Il le faisait parler avec ses mains, donc il y avait toute une histoire autour de ça. Et on m'a raconté l'histoire, malheureusement je ne l'ai pas connue, mais ils étaient très liés avec Alain Brieux. Et donc la collection de Nicolas Landau est pour en partie au Louvre. Voilà, donc c'est une chose. Moi je trouve que, je crois qu'au fond je suis à ma place, parce que ce que je suis, c'est que j'aime découvrir. Donc tout à l'heure on va parler aussi de Grothendieck. Pourquoi Grothendieck est arrivé chez moi, c'est juste un concours de circonstances, c'est que du hasard. Moi je passe ma vie à, voilà, parce que d'abord une partie de ma vie c'est ça, ben voilà, je peux recommencer par ça. Moi en fait j'ai aucune formation, je suis au départ fils de paysan, et puis je trouve des livres sur un dépôt d'ordures à côté de la ferme, et puis je décide de monter les vendre à Paris. Je monte à Paris, j'essaye d'avoir des boîtes sur les quais et je veux vendre pour la première fois un livre, et j'arrive devant la librairie Alain Brieux et il y a l'avis de décès d'Alain Brieux. Donc je ne le rencontrerai jamais, et 20 ans après, pratiquement jour pour jour, je rachète sa boutique. Voilà, donc c'est juste que des concours, des rencontres, etc. Au fond, je n'étais pas programmé pour ça, mais j'étais juste programmé pour être un fouilleur. Bah, je crois que j'avais un grand-oncle qui devait faire ça, qui devait être un peu chiffonnier. Donc je suis peut-être un petit peu un brocanteur de l'objet, peut-être un petit peu de galon, mais ça reste à prouver. Voilà. Donc mon aventure Grothendieck. Alors en fait, moi, en 2015, on m'appelle un jour en me disant... vous appelle parce que la Bibliothèque nationale veut nous acheter les manuscrits de notre père. Il était mathématicien, mais on nous propose une somme. On trouve que c'est pas très très cher, puis ça nous plaît pas trop. Voilà. Donc je dis, c'est qui? On me dit, c'est le fils d'Alexandre Grothendieck, qui s'appelle Mathieu, qui me dit, ça me vient un peu par hasard, parce que je suis. Personne ne voulait s'en occuper au niveau du syndicat de la librairie ancienne et moderne, et on m'envoie un peu cette espèce de truc. Donc je dis, pourquoi pas, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je veux bien, ça m'amuse. Et donc je décide de partir voir les héritiers, et je vais donc au pied des Pyrénées pour voir les manuscrits. Je me dis, qu'est-ce que je viens foutre là? Je ne connais rien en mathématiques, j'ai tort de venir là, mais... Je ne peux pas m'empêcher parce que justement j'ai trop envie de comprendre, de découvrir et tout. C'était un espèce de... Et j'arrive et puis je rentre chez Mathieu qui me dit, ça c'est les mâles de mon père. Donc il y a 60 000 pages de manuscrits qu'on verra tout à l'heure. Je ne sais même pas à l'époque qui est Alexandre Grothendieck. Juste, j'avais eu le temps de regarder un début, c'était le début où on avait les fiches Wikipédia. Donc je commence de regarder et puis je me dis, c'est incroyable, mais bon, je ne vais pas y arriver, mais tant pis, on y va. Et puis la vie fait que j'ai réussi à faire deux fois le tour de France pour faire en sorte que tous les héritiers se mettent en accord. Et j'ai récupéré les manuscrits qui sont dans la cave ici. Et puis, Et puis, ben, il faut arriver à un moment donné à bouger. Donc, je n'arrive pas à bouger parce que la Bibliothèque nationale ne veut pas bouger, ne veut pas acheter, parce qu'ils espèrent avoir tout ça pour rien. Et moi, j'ai trouvé une petite... Il y avait un carton de poubelle de Grothendieck. Alors, on les a un petit peu mis en ordre. Voilà, donc on a ces petits cartons. C'est des feuillets de Grothendieck. C'est juste des brouillons, des morceaux de papier. Il y a des lettres, il y a des choses comme ça. Enfin, il y a des dessins. Voilà. Et puis, il y a un courrier. Des enveloppes. Voilà. Parce que Alexandre Grothendieck, pour faire l'historique, tout le monde le sait, c'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, probablement le plus grand du XXe siècle. Et voilà, Monsieur Alexandre, 09 Lasserre. Voilà, c'est le plus grand mathématicien du XXe siècle qui s'est retiré du monde, qui refusait de parler à tout le monde. Enfin, l'homme était juste extraordinaire. Il était le plus grand mathématicien du XXe siècle, probablement le premier écologiste ou un des premiers écologistes au monde. Et voilà, on va pas dire la dernière. Voilà, donc j'ai récupéré tout ça. Et voilà, ça c'est les manuscrits, mais il faudra qu'on parle un peu de Grothendieck d'une manière différente. Mais juste le personnage est absolument prodigieux et extraordinaire. C'est des brouillons de brouillons, en fait c'était prévu pour la poubelle.
C'est sur des moi j'ai vu... Il y a des choses, ça, c'était pour les ordinateurs,
voilà,
les partitions de musique. Hein.
Voilà, c'est ça. Remettre le son. Par contre, juste avant.
Là, ça peut aller parce qu'au final, je peux en mettre par-dessus quand
exactement,
vous parlez.
C'est,
en fait.
c'est ça
illustre. Comme ça, c'est pas tout le temps le même plan avec
que vous. Dites, hein.
Voilà, etc.
Super, c'est bon.
Voilà, ouais. Alors, on va regarder les feuilles parce que ça, moi, j'aime beaucoup.
Et le carnet d'Auschwitz, vous le montrez.
Après, on va parler de ça.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, Alexandre, c'est un type qui passait sa vie à écrire des choses. Donc toute feuille de papier était un support d'un quelconque. Mmh. Il avait une idée, donc voilà. Là, par exemple, au milieu, il y a les pommes de terre, carottes, navets, etc. Mais à côté de ça, il y a des auxquels le commun des mortels ne comprend rien. Fusible, citron, voilà. Et donc j'ai trouvé 80 000 euros pour ça. Voilà. Ce qui est formidable, c'est que
Monsieur Alexandre
Lasserre. Il était tellement connu, etc. Voilà. Ciboulette. Voilà.
Très bien.
Donc là, on revient à notre ami Grothendieck et la séquence émotion. Voilà, donc ça, c'est les mâles de Grothendieck. Donc il y a ici 60 et quelques cartons, des boîtes qui ont été faites par Alexandre Grothendieck uniquement sur ses écrits des dernières années, depuis 1972, je crois, jusqu'à 2012. 2004 à 2014.
Ça, c'est les écrits d'Alexandre. Donc, la particularité d'Alexandre Grothendieck, c'est qu'il avait, c'est comme un personnage assez particulier, hein, et il faisait faire ses boîtes par un relieur, qui était un ancien prisonnier, qui avait fait quelques années de prison dans une du côté de Saint-Gaudens, parce qu'en fait, c'était un ancien accent direct. Donc, on retrouve les fameux manuscrits. On retrouve encore le même procédé, mais tout ça est tout référencé, c'est tout classé, tout est propre, etc., etc. Et il y a donc 64 boîtes, ce qui fait plus de 60 000 pages. Voilà. Et quand je dis séquence émotion, parce que c'est juste... incroyable. Dedans, il y a le manuscrit de Récolter ce mail qui vient d'être publié. Voilà. Et donc, la séquence émotion, c'est ça, surtout. Alexandre Grothendieck avait un père qui était un juif ukrainien, qui s'appelait Shapiro. Et là, c'est la liste des convois Serge Klarsfeld du 8-18-42, en 42. Et c'est les trains où son père part en déportation. Et voilà. Je trouve ça totalement incroyable. Donc, il a tout recopié, tout classé, tout... un travail avec des annotations que moi je ne comprends pas, mais je ne suis pas là pour comprendre, moi je suis là pour faire en sorte que ça se passe bien pour les héritiers. Voilà, moi j'insiste beaucoup sur les héritiers. Les héritiers de Picasso ont des sommes colossales et les héritiers de Grothendieck n'ont même pas de quoi vivre. Alors que tous les Grothendieck, toutes les mathématiques de Grothendieck sont aujourd'hui, c'est de la 4G, 5G, 6G, 7G, 8G. Donc voilà, les mathématiques de Grothendieck sont juste l'avenir. On est au début de... Voilà. Et je ne comprends pas que les héritiers n'aient pas quelque chose. Donc moi, je suis là pour vendre, pour que les héritiers touchent de l'argent. Mais voilà. Je trouve que c'est incroyable. Alors dedans, il y a un nom, je ne sais jamais où c'est, mais il y a le nom de son père. Voilà. Et sans autre annotation... des mois et des mois de travail. Je trouve que c'est de l'émotion pure. Voilà. C'était la séquence émotion Grothendieck. Voilà toutes les boîtes et toutes les merveilles de Grothendieck. Et je ne comprends pas que la Bibliothèque nationale n'achète pas ça pour une somme folle.
C'est clair que... votre plus belle trouvaille, c'est les manuscrits de Grothendieck.
Absolument.
Mais il y en a quand même d'autres qui vous ont marqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Mes plus belles trouvailles, c'est celles qui vont venir. C'est qu'il y en a toujours demain. Moi, je ne peux pas dire. Je me souviens de tas de trucs que j'ai trouvés. Mais oui, il y a eu les. À un moment donné, il y a eu les. J'ai eu une très très belle, une extraordinaire collection qui avait été folle. J'avais fait une vitrine de l'émotion, c'est sur les gueules cassées, donc j'avais des cires, des gueules cassées, et plein de photos. Il y a des gens qui rentraient dans la boutique, et qui rentraient en larmes. C'était incroyable. Donc j'avais fait une vitrine, heureusement. Alors, ça explique aussi, donc cette collection a été vendue à un musée, donc c'est des choses qui n'apparaîtront plus sur le marché, peut-être un jour j'en trouverai une, mais c'est pour ça que les cabinets de curiosité, les choses se raréfient parce que ça part dans des musées ou ça part dans des collections. Mais à nous d'inventer autre chose. C'est pour ça que pour moi, l'Ouraline, c'est autre chose. Et puis demain, ce sera encore autre chose. Parce que mon but, c'est de découvrir des trucs et d'essayer d'apporter quelque chose. J'ai la phrase d'un copain un jour. On est dans une bibliothèque et puis on nous dit « Oui, mais vous n'imaginez pas, les marchands, c'est pas bien ce que vous faites, etc. » Nous, on est, voilà. Et en fait, j'étais avec ce copain, on était à la bibliothèque de la... Je sais plus, une bibliothèque et la personne, Mon copain dit à ce moment-là, mais vous savez comment sont faites les collections que vous avez chez vous dans vos musées? C'est des collectionneurs qui vous les ont données, qui vous les ont vendues. Donc c'est nous qui sommes, vous devriez nous remercier. Donc nous, on est des passeurs. Moi, aujourd'hui c'est ça, demain ça va être autre chose, et puis c'est la vie, quoi. Mais toutes les choses vont être appelées à finir dans des musées, et on est un petit peu les passeurs. Voilà, moi c'est ma petite démarche modeste.
Est-ce que c'est vrai que toutes les choses finissent dans les musées? C'est-à-dire, c'est lié au fait que les cabinets de curiosité anciens disparaissent petit à petit, mais est-ce que vous pouvez nous parler des collectionneurs, des gens qui s'arrêtent devant votre vitrine?
Alors, aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que malheureusement, la collection, elle se fait beaucoup plus dans la vitrine. Il y a quelquefois des gens qui viennent, qui vont être émus, qui vont acheter un objet qui va rentrer dans leur collection. Mais il y a aussi la collectionnite de photos. Donc, il y a des gens qui passent, qui font une photo, ils ont la photo, et pour eux, c'est magique, c'est suffisant. Et puis ils n'ont pas envie d'acheter plus que ça. Ils vont mettre ça dans leur truc, ils vont montrer ça à leurs copains après, et puis ils vont mettre ça sur leur Instagram, voilà. Donc c'est ça, peut-être j'ai la collectionnite de demain, j'en sais rien. Moi, je continuerai à faire mon petit métier, et puis voilà. Peu de choses près. Mais moi, je suis plein d'avenir. Hein. J'ai deux collaboratrices, elles sont plus jeunes que moi, on n'arrête pas, et puis on est tout le temps dans découvrir quelque chose parce que ça nous amuse, parce que sinon on s'ennuie, quoi. Voilà.
Une autre question qui me vient à la tête immédiatement, c'est le caractère international. Je suppose qu'autrefois, les livres, c'était les gens qui passaient devant la librairie ou les objets, il fallait être sur place. Maintenant, vous êtes en contact avec des Japonais, avec des Sud-Américains, etc.
C'est le monde entier qui nous achète, mais ils nous achètent par Internet. Mais après, il reste quelque chose. Et puis il y a des gens qui reviennent. La semaine dernière, on m'a dit, tiens, on a vu cet objet il y a 2 ans, mais vous l'avez toujours. Ben non, on ne l'a pas, parce qu'en fait, heureusement, il faut qu'on vende de temps en temps. J'avais un tableau d'un personnage important, il est vendu, voilà, donc, il n'a pas pu, mais c'est la vie, quoi, et moi de retrouver autre chose.
Oui, merci beaucoup Jean-Bernard, pour tout ce que vous nous avez fait découvrir, l'émotion que ça a engendré, en vous souhaitant de faire encore beaucoup de trouvailles de toutes sortes, et en vous demandant qu'est-ce que vous diriez pour finir.
Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que moi, demain, il y a encore d'autres choses à découvrir. Donc, je ne sais pas de quoi est fait demain. Parce que demain, il y aura quelque chose auquel... Tous les jours, écoutez, avant, j'étais paysan. Je veux dire que mon métier était bien, le métier de paysan. Mais aujourd'hui, je trouve que tout ce que je fais, c'est je ne sais pas de quoi demain va être fait. Donc j'apprends tous les jours. Moi, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, je n'ai pas le temps de prendre ma retraite. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de mourir. Voilà. Mais ça arrivera.